Radio Kapi. Oh,
Kapi. Jocelyne Moussa Oponte pour les journaux.
Près de 9 millions de personnes, dont environ 4 millions de déplacés internes, ont besoin d'une assistance humanitaire en RDC. À propos de Mamane Sidikou, hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était au cours de la réunion sur la situation dans le pays. Dans la Lomami, des étudiants de l'université de Cabinda demandent au ministre de l'enseignement supérieur le départ du comité de gestion de cet établissement. Ils reprochent à cette équipe, entre autres, la politisation du milieu universitaire. Les députés provinciaux du Kasaï central impayés depuis 7 mois, c'est le dossier que nous vous proposons en seconde partie de cette édition. Bonjour à tous. La RDC compte à ce jour environ 8,5 millions de personnes ayant actuellement besoin d'assistance humanitaire. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du territoire national a atteint 3,8 millions de personnes. Dans les Kasaï, quelques 2,8 millions de personnes sont confrontées à des niveaux critiques d'insécurité alimentaire. C'est ce qu'indique le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Mamane Sidikou l'a dit hier au Conseil de sécurité au cours de la réunion sur la situation en RDC. Il a également abordé le chapitre relatif au processus électoral. Écoutez cet extrait du discours du chef de la MONUSCO, Mamane Sidikou.
Je souhaite souligner l'engagement de la MONUSCO à soutenir, à travers ses bons offices, les principes de l'accord du 31 décembre. Principes qui représentent la seule voie viable de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, l'établissement d'un budget pour la tenue des élections, la mise en œuvre des mesures de décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentales sont les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique. À cet égard, le soutien des Nations Unies, tout en étant essentiel, ne sera pas suffisant. En effet, les acteurs de la région, notamment l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe, la Conférence économique des États d'Afrique centrale, ont un rôle essentiel à jouer pour aider toutes les parties prenantes à la République démocratique du Congo à relever les défis auxquels elles sont confrontées et soutenir les progrès réalisés dans le processus politique en vue de la tenue des élections. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et de manière solidaire et en synergie que les obstacles auxquels la République démocratique du Congo se heurte maintenant pourront être surmontés.
Présent à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères qui conduit la délégation de la RDC a par ailleurs promis la publication imminente du calendrier électoral. Léonard Cheokitundu.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, mon pays a bel et bien mis le cap vers les élections. La question que chacun de vous se pose aujourd'hui est celle relative au calendrier électoral. C'est pour répondre à cette préoccupation que le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a procédé conjointement avec la CENI et le gouvernement à une évaluation du dit processus. Le calendrier sera donc publié incessamment. Toutefois, vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'à 2 reprises, la CENI a eu à publier 2 projets de calendrier en 2014 et 2015 qui non seulement ont été systématiquement rejetés par l'opposition, mais également n'ont pas bénéficié du soutien attendu de la communauté internationale. Cela a eu comme conséquence le report des élections jusqu'à ces jours. Par ailleurs, pour des raisons d'ordre logistique, financier, sécuritaire et normatif, le président de la CENI a déclaré il y a quelques mois que les 3 élections couplées prévues pour décembre 2017 ne pourront pas se tenir à cette date. Quant à la possibilité du report des élections, les dispositions du chapitre 4.4.2 de l'accord politique du 31 décembre 2016 l'ont également prévu.
Les propos de Mamane Sidikou et de Léonard Cheokitundu ont été recueillis par nos collègues de la Radio des Nations Unies à New York. Par ailleurs, la situation politique en RDC sera au menu de la réunion du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs. C'est jeudi à La Haye, aux Pays-Bas. Ce groupe, qui comprend les États-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies, établira sur des graves préoccupations que suscite la situation au Congo-Kinshasa en matière humanitaire et sécuritaire, annonce Human Rights Watch dans un rapport publié mardi. Cette ONG de défense des droits de l'homme indique que cette organisation congolaise et internationale demande à l'Union européenne et aux États-Unis de sanctionner les membres de la famille du président Joseph Kabila et ses proches qui, d'après ces organisations, tirent profit d'activités illégales en RDC. Élections en RDC, la tripartite regroupant le CENSA, la CENI et le gouvernement prévu ce jeudi n'aura plus lieu ce jour. Elle est plutôt reportée à la semaine prochaine du 17 au 20 octobre. Elle devait être la toute première réunion de cette tripartite depuis sa proposition par l'accord du 31 décembre 2016. Son rôle, évaluer le processus électoral. Et pendant ce temps, les députés provinciaux du Kasaï central recommandent à la Commission électorale nationale indépendante de publier le calendrier de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Ils l'ont dit hier mercredi devant la presse à Kananga. Cette déclaration est faite une semaine après la déchéance du gouvernement provincial. Écoutez la déclaration de ces députés recueillie par Blaise Nongala.
Nous, députés provinciaux du Kasaï central, réunis ce jour pour réfléchir sur le fonctionnement de notre province. Considérant les résultats de la motion de censure adressée au gouvernement provincial et qui a conduit à la déchéance de celui-ci en date du 4 octobre 2017, considérant que la récente motion a occasionné la vacance dans notre province, vu l'urgence, vu la loi électorale qui dispose en son article 160, ses trois premiers alinéas, réclamons la publication du calendrier et l'organisation des élections du gouverneur et vice-gouverneur dans notre province par la CENI, conformément à la loi ci-évoquée.
Rappelons que selon l'article 160 de la loi électorale, la CENI est appelée à organiser l'élection du gouverneur dans les 30 jours après la déchéance du gouvernement provincial du Kasaï central. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Dans la province de la Lomami, un groupe d'étudiants appuyé par la société civile locale demande le départ du recteur de l'université de Cabinda. Il reproche au professeur Kaputa Luta la mégestion et la politisation du milieu universitaire. Chris Mukande.
Hier mercredi, quelques personnes qui tentaient d'organiser une marche dans les rues de la cité de Cabinda se sont heurtées aux forces de l'ordre. Ces manifestants voulaient atteindre le cabinet du gouverneur de province pour y déposer un mémorandum. Les signataires de ce document accusent le recteur de l'UNICAB de despotisme. Il n'y aurait pas de transparence dans l'affectation des moyens financiers. Plusieurs étudiants auraient échoué à la première session pour leur non-appartenance au parti travailliste du ministre Steve Mbikai de l'enseignement supérieur et universitaire. Le professeur José Kaputa rejette toutes ces accusations.
Les jurys de délibération est souverain. Ainsi, par exemple, que mon petit frère, qui habite chez moi, pour qui je paye les frais académiques, est revenu en deuxième session avec 7 cours, parce que je n'ai pas les droits de m'ingérer dans un travail de jury. Et il est difficile à prouver que les étudiants qui ont reçu en première session sont tous membres d'un parti politique. Comment je pouvais imposer un parti politique sur un milieu universitaire où des étudiants appartiennent à plusieurs partis politiques?
Quant aux finances, le recteur de l'université de Cabinda affirme que cette année, le comité de gestion a payé les honoraires de 60 professeurs visiteurs, 4 mois de primes locales de tous les agents et 10 mois de primes aux agentes cliniques. Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Kapi.
Au chapitre sécurité, en Ituri, le commandant du secteur opérationnel des FRDC, le général David Rougaï, interdit toute réunion du comité de sécurité dans la chefferie de Oalendou Bindi sans que l'armée n'y soit associée. C'est le capitaine Carlos Calombo, porte-parole des FRDC en Ituri, qui l'a annoncé mercredi à Bounia. Selon lui, ces réunions sont organisées par des chefs de groupement avec d'autres notables du milieu sans la participation des FRDC. L'armée indexe ainsi ses autorités coutumières d'être en collaboration avec les milices des FRPI, allégation que rejettent certains chefs de groupement. Explication Marcel Kiza.
Les FARDC disent avoir constaté pendant plusieurs mois de la tenue des réunions des comités de sécurité dans certains groupements de Oalendou Bindi sans que les commandants locaux de FARDC ne soient associés. Pour le capitaine Carlos Calombo, la chefferie de Oalendou Bindi est une zone opérationnelle et les FARDC ont donc le droit de participer à ces réunions. L'armée soupçonne une complicité avec les miliciens. Carlos Calombo.
Le FRPI est gratifié de l'appui de la population de Oalendou Bindi. Nous voulons dire au nom du commandant secteur, tous ceux-là qui seront surpris en train de tenir une réunion de sécurité sans impliquer les forces armées, puisque nous sommes dans une zone opérationnelle, ils vont s'en prendre à eux-mêmes.
Certains chefs de groupement contactés ne reconnaissent pas les faits. Celui des Adour, cité par les FARDC, qualifie cette décision de non fondée. Claude Iribi Zitono.
Pour moi, c'est une surprise, puisque à tout moment, quand nous organisons la réunion, il y a la présence des autorités militaires. J'ai risqué la mort à Katanga à cause de SRPI. Walendoubi ne sont pas à combattre avec SRPI.
Le gouverneur des provinces de l'Ituri, Jefferson Abdel Apinembaka, appelle les chefs de groupement à l'ordre et à associer les FARDC à leur réunion de sécurité. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs villages de la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Selon le président du Baraza Lawazé à Bwalanda, une dizaine de personnes ont été tuées en l'espace de 5 jours dans différents villages. La situation risque de se détériorer comme l'année dernière si rien n'est fait, ajoute-t-il Sifa Maguru.
Des informations qui proviennent de la région donnent des bilans imprécis jusque-là. Des sources sécuritaires parlent de 5 personnes tuées ce mercredi matin au cours d'une attaque du NDC rénové dans les villages Kabirangiriro, groupement Kihondo, 3 kilomètres de Kikuku. Ces Maïmaï seraient venus pour attaquer les Nyatura. Par ailleurs, 5 autres personnes auraient été tuées la nuit dernière, dont 2 femmes et un enfant, dans le village Butsiri, et 4 autres personnes tuées à Mirangi, dans le groupement Kanyabayonga par des Maïmaï Mazembe. Selon nos sources, tous ces incidents ont un rapport avec les conflits intercommunautaires. Des populations en majorité Hutu seraient en train de fuir vers Kikuku et Nyanzale, ajoute notre source. Le président du Baraza Lawazé appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes.
C'est la situation s'empire tout dans la chefferie de Bwito, en particulier dans les groupements de Mutanda et dans les groupements de Kanyabayonga. Demandons au gouvernement provincial et national de demander à la FARDC de protéger la population civile de la chefferie de Bwito.
L'année passée, des dizaines de personnes avaient été tuées dans la chefferie de Bwito à cause des conflits entre Hutu, Nande et Hunde. Grâce à l'implication du gouvernement provincial, de la MONUSCO et du Baraza intercommunautaire, ces communautés ont pu être réconciliées. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Économie à présent. Dans la province de La Tchopo, la cacaoyère de Bengamissa, Kaben, vient de publier le prix de vente du cacao pour la campagne 2017. Dans le bloc industriel, le kilo du cacao est fixé à 1,5 $, alors que dans le bloc familial, le kilo du cacao revient à 0,9 $. Information livrée hier à Radio Capi par le directeur général ad intérim de la Kaben. Celui-ci dénonce également la vente clandestine du cacao qui ne facilite pas à la Kaben la production des statistiques fiables par rapport à la production du cacao. Explication Dorcas Kankou.
La campagne 2017 de mars au mois d'octobre pour une durée de 4 mois. Le bloc industriel concerne 443 hectares sous culture de cacao de la Kaben, alors que le bloc familial compte 686 hectares d'environ 2000 paysans producteurs de cacao encadrés par la Kaben. Les producteurs, planteurs, transformateurs ainsi que les exportateurs ont été déjà avisés de cette tarification. Par ailleurs, le directeur Willy Maingolo dénonce la fraude dans la vente du cacao par des exportateurs clandestins qui s'approvisionnent frauduleusement auprès de producteurs sans respecter la procédure. L'année dernière, la Kaben a été victime d'un pillage à travers un vol organisé où elle a perdu 450 tonnes. Pour cette campagne 2017, le directeur de la Kaben exhorte les producteurs du cacao au respect de la rétrocession à la Kaben des 10% de vente. Ces producteurs ont bénéficié des plantules de cacao et de l'encadrement des ingénieurs de la Kaben. Cette dernière dispose de 5000 hectares dont moins de 10% sont exploités actuellement. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Le ministre zambien de la Justice, Given Lubinda, a annoncé hier mercredi dans la soirée l'expiration de l'état d'urgence proclamé il y a 3 mois à la suite d'une succession des troubles attribués par le gouvernement à l'opposition. Le président Edgar Lungu avait déclaré en juillet l'état d'urgence validé dans la foulée par le Parlement après plusieurs incendies criminels destinés, selon lui, à créer la terreur. Il a mis en garde des individus tentés de profiter de la fin de cette mesure pour fomenter des troubles. C'est ce jeudi 12 octobre que le président américain devrait se prononcer sur l'accord sur le nucléaire iranien. Conformément à la loi, la Maison-Blanche doit tous les trois mois certifier que l'Iran remplit bien les conditions de l'accord. Donald Trump menace cette fois de refuser de donner cette certification, bien que les autres partenaires de l'accord assurent que Téhéran agit conformément au texte. Mais un tel geste de la Maison-Blanche ne signifie pas le retrait américain de l'accord sur le nucléaire.